France Musique.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Pendant 35 ans, Jérôme Garcin a été l'arbitre des joutes verbales du dimanche soir à la radio. Un masque et la plume qu'il a quitté de son plein gré, tout comme les pages culture de l'Obs, Nouvelle Obs. Aujourd'hui, l'homme de radio, critique, journaliste, écrivain, se raconte dans Écrire et dire, issu d'entretien pour France Culture. Il se met à nu, il raconte son histoire familiale, des drames qui l'ont frappé, ses rencontres, ses passions, l'écriture, les chevaux. Aussi une vie à lire, comme on écouterait une fugue de Bach. Bonjour Jérôme Garcin.
Bonjour Jean-Baptiste.
Qu'est-ce que vous ressentez en entendant cette fileuse de Mendelssohn sous les doigts de Daniel Barenboim ?
J'ai failli prononcer le fatidique, le masque et la plume,
parce qu'il
y a un petit temps entre les deux que j'ai quand même prononcé chaque fois, puisque c'était pas préenregistré pendant 35 ans, 52 dimanches par an. Puisqu'il n'y avait pas de rupture estivale. Et donc, quand j'écoute ça, Allez, je vais pas mentir, hein. Il y a une immense mélancolie, puisque on fait pas impunément cette émission pendant, même si on en a hérité pendant si longtemps, sans avoir des regrets qui sont un tout petit peu, calmé par le fait que j'ai fait le choix d'arrêter. J'ai aimé ça jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que le 31 décembre dernier, c'est vrai que quand j'ai rendu pour la dernière fois l'antenne, avec le générique fin de l'émission, j'ai éprouvé une immense tristesse. La joie que l'émission continue, évidemment, puisqu'elle ne s'arrêtait pas avec moi. Mais j'ai adoré ça. Vous ne savez pas à quel point j'ai aimé ça, alors que je pense que je n'étais pas vraiment fait pour ça. J'étais pas un homme de radio naturellement, mais j'ai aimé arbitrer, j'ai surtout aimé que cette émission, à la fois culturelle et populaire, puisque c'était vraiment le principe de cette émission, que cette émission fasse aimer des films, des livres, des spectacles, des pièces au plus grand nombre.
Vous parlez de tristesse, ce micro là, cette lumière rouge devant nous, ça vous manque ?
Ça me manque c'est moins la lumière rouge et le micro que le public. C'est-à-dire, encore une fois, le masque ne pouvait se concevoir que devant un public.
Un spectacle.
C'était du spectacle, c'était presque du théâtre, c'était presque de la comédie. Et c'est vrai que ça me manque. C'est plutôt cette agora, cette passion culturelle, populaire et collective qui me manque. C'est pas tellement le micro. Ce qui me manquerait à crever, c'est de ne plus écrire. Ça, oui. C'est pour ça que quand vous dites que j'ai arrêté, de diriger au même moment les pages culturelles de l'Obs, mais j'ai tenu à continuer à faire un bloc-notes hebdomadaire pour continuer à écrire et à faire passer mon amour des livres, de la musique, de l'art et du cinéma. Ça, oui. Le micro en tant que tel, comme objet transitionnel, ne me manque pas.
La musique, l'amour de la musique. Votre premier choix, Jérôme Garcin, c'est lui.
ça, c'est, je dirais presque, c'est mon hymne, c'est ma prière. Je peux pas vivre sans cette terre-là. J'ai un besoin que j'ai du mal d'ailleurs à m'expliquer. Il faudrait peut-être qu'un jour je passe sur le divan pour les voix de haute contre ou de contre-ténor, dont Jarouski, à mon avis, est l'expression la plus sublime, même si j'ai adoré Deller et Baumann et si je devais aller jusqu'au bout de cette psychanalyse que je n'ai jamais faite, peut-être que c'est pour moi le timbre le plus proche de ce que j'imagine être la voix que j'ai forcément oubliée de mon jumeau disparu. Il y a quelque chose de cette enfance qui ne veut pas mourir qu'on entend dans la voix de Jarouski et de ces voix-là en général, surtout dans ce répertoire baroque, qui me font dire, penser que voilà, c'est la petite voix d'Olivier, qui était le prénom de mon jumeau disparu, toujours à mes côtés.
Mettre un terme à sa vie professionnelle, c'est dire adieu à sa jeunesse, que la radio et les journaux avaient prolongé de manière abusive et merveilleuse, comme l'équitation vous donne l'illusion de n'avoir pas d'âge et vous offre parfois le privilège innocent de retomber en enfance. J'entre dans ce que Pascal Quignard appelle si bien le dernier royaume, le mien peuplé d'êtres aimés, tapissé de livres sacrés, bercé nuit et jour par le « Ombra et Maïfou » de Handel, ce chant d'amour du roi perse Xerxès, pour un platane égyptien que le contre-ténor Philippe Jarouski élève à la hauteur des anges. C'est l'avant-propos que vous avez signé de cet livre d'entretien Écrire et dire avec Caroline Brouet aux co-éditions les éditions de l'Équateur et France Culture. Cette voix, elle console? Je vous voyais l'écouter avec une certaine émotion.
Non, elle ne console pas. Elle incline, elle me pousse dans mon mauvais penchant, dont je vous parlais déjà au début, qu'est la mélancolie. Et je me retiens beaucoup dans ma vie d'être aspiré par ce passé qui m'obsède, pour des raisons évidemment personnelles. Et je ne crois pas que la musique, pas plus que d'ailleurs l'écriture, soit consolatrice. En revanche, j'ai la conviction, en tout cas en ce qui me concerne, que je ne peux pas vivre sans. Je ne peux pas vivre sans musique, je ne peux pas vivre sans littérature. Si je devais faire de la peine à certaines auditrices ou auditeurs, je pourrais vivre sans le cinéma, je pense, que j'adore, hein. Mais je pourrais la musique et la littérature, ce serait impossible. Et c'est vrai que mon penchant aussi pour cette musique baroque qui accompagne très bien ces retours vers le passé est quelque chose dont j'essaye aussi de me protéger. Sinon, je ferais ce que Bartabas appelle du galop arrière. Et je pense que c'est pas bien. Il faut aussi aller de l'avant. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire le masque et la plume. Il y a un moment donné où je pense qu'il faut se tourner vers le lendemain.
Vous écrivez en Normandie en musique? Vous lisez en musique?
Oui, j'écris, je lis en musique, je voyage en musique. Je vous dis, c'est un besoin naturel, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est vrai qu'on me reprochera peut-être que d'être trop musique classique pour certains, mais voilà, c'est ma manière d'être. Je pense que vous savez, je pense qu'il est très difficile quand on est écrivain de parler de musique. J'étais très souvent déçu par la manière dont les écrivains, on est toujours tenté par le pléonasme, la tautologie, ou la banalité, hein, même après Mozart, il y a le silence et Mozartien. Là, je pense que c'est très dur. De la même manière que c'est très dur de parler, je pense, de l'équitation. Quand je parle de l'équitation, c'est de l'art équestre. Mais en revanche, le rêve pour un auteur, c'est d'arriver à une phrase qui soit aussi bien qu'à danser qu'une partition de Bach ou que le passage ou le piaffé d'un lusitanien. C'est-à-dire que on peut espérer mettre un peu de musique ou d'art équestre dans sa phrase. En revanche, en parler, je pense que c'est très difficile.
Vous les lisez à haute voix, parfois, vos phrases de roman?
Non. Non, pas du tout.
Pour voir comment elles sonnent?
Non, et puis ça j'évite d'abord parce que c'est de même que je ne me relis pas. Il y a une écrivaine que j'adorais qui est morte depuis, qui s'appelait Béatrix Beck. Je sais pas si le Léon Morin prêtre. Et je lui avais demandé un jour, est-ce que vous vous relisez? Elle avait écrit des livres magnifiques. Hein. Elle me disait, non, j'aurais l'impression d'être un chat qui bouffe ou un chien qui bouffe ses vomissures. Et c'est vrai que s'écouter lire son propre texte ou se relire, non merci.
Mais alors là, le masque et la plume, l'oral et l'écrit, presque un paradoxe. Ce livre, c'est un livre d'entretien, contrairement à vos romans. On passe, c'est une version écrite. Vous qui êtes un homme de radio et de l'écrit, c'est pas le même exercice.
Non, c'est absolument pas le même exercice. Et je dois avouer que même au début, d'abord Caroline Brouet a fait ses entretiens avec moi de manière incroyable, parce qu'elle m'a, je vous le disais tout à l'heure, j'ai jamais fait de psychanalyse alors que j'en aurais eu peut-être besoin à une époque, et Caroline m'a vraiment elle m'a fait dire des choses que je ne dis pas d'habitude, et quand aux éditions des Équateurs, Jeanne Van Tram a eu l'idée d'en tirer un livre, au début j'étais réticent, parce que moi je suis un peu comme vous Jean-Baptiste, je pense qu'il y a la parole et puis il y a l'écrit, mais que la transcription de ce qu'on dit sur le papier est toujours un tout petit peu suspect, pour ne pas dire dangereux. Et puis finalement, elle m'a convaincu et j'ai tout réécouté et j'ai évidemment retouché beaucoup. C'est-à-dire, j'ai pas pu m'empêcher de réécrire. Tout y est de ce que je disais, mais j'ai eu besoin d'y ajouter la forme sans quoi le livre, à mon avis, n'aurait pas eu de sens pour moi, tout simplement pour moi, parce que, encore une fois, la parole, c'est pas l'écrit, et que l'écrit m'a permis de donner à cette parole, disons, une forme un peu plus nette et claire.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si milare sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes courent et faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si milare sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Je reste malhabile face au dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol d'enfant. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol d'enfant. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol d'enfant.
Jean Garcin.
On est bien chez vous, Jean-Baptiste, le matin.
C'est autre chose.
J'ai pu écouter Jarowski et Barbara. C'est bien, hein? Non, c'est vrai.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson?
Oh, bah, tout. D'abord, je trouve que c'est le plus bel hommage que. Bon, c'était. Tout le monde le sait, hein. C'était après la mort de sa pianiste de l'Écluse. Et je trouve que voilà. voilà, elle lui rend hommage avec une tristesse allègre. Je trouve ça merveilleux. Je trouve que le texte est très beau, comme tous les textes qu'elle écrivait. Je rappelle qu'elle a, elle écrivait. Elle savait pas le solfège. Elle en riait beaucoup d'ailleurs, parce que c'était une amie.
D'ailleurs, quelque chose d'assez génial dans cette chanson, c'est que les notes qu'elle chante ne sont pas les notes
réelles. Non, absolument. Absolument. Mais voilà. Et puis, c'est vrai que là encore, décidément, c'est ma matinée, mais ça me rappelle les heures qu'on a passées ensemble à Précy, ou ailleurs, et que c'était une femme, c'était plus qu'une chanteuse, quoi. C'était une, pour moi, c'était une écrivaine. Ça, personne ne l'a jamais dit, mais quand vous prenez toutes ces chansons, elles se racontent le pire
c'est
comme le meilleur.
Ah,
c'est une œuvre, mais surtout, c'est une œuvre autobiographique. On peut raconter toute la vie de Barbara avec ses chansons. Encore une fois, c'est une musicienne merveilleuse, alors qu'elle était inapte au solfège et à l'élémentaire de la musique. Et puis c'est peut-être cette femme qu'on a dit ténébreuse, brune, était celle avec qui j'ai peut-être eu les plus grands fous rires, la plus insolente, la plus la plus droite. Moi, je me souviens combien de fois apprécie elle. Elle me disait, tiens, j'ai encore d'ouvrir une ligne pour les malades du sida ou pour les familles des malades du sida. Elle se consacrait nuit et jour, aux autres, anonymement. Et puis elle me disait tout le temps, mais tu vois là, quand je fais ça, je suis OK avec cette femme-là, me disait-elle en parlant d'elle. Et j'en ai gardé un peu cet esprit, c'est que quand je suis pas trop mécontent de quelque chose, je me dis que je suis OK avec cet homme-là.
Barbara, d'autres figures, quand on voit, quand on lit, écrire et dire, ou quand on écoute sur l'application Radio France cette série à voix nue menée par Caroline Brouet pour France Culture, on se rend compte à quel point vos romans, qu'ils parlent de personnages illustres, de personnages intimes, sont aussi des tombeaux.
Oui, c'est vrai que c'est peut-être ce qui rassemble. Allez, on va essayer de ne pas être trop triste ce matin, mais ce qui rassemble mes propres disparus, mon jumeau renversé par une voiture sous mes yeux quand on allait avoir 6 ans, mon père, qui est mort d'une chute de cheval 10 ans après, il avait 45 ans, moi j'en avais 17, plus récemment ma mère et mon frère cadet, et puis il y a les disparus dont je ne m'accommode pas de la disparition. Ou de l'oubli, et qui évidemment, et c'est Jacques Lucéran qui était un résistant aveugle, c'était Jean Prévost, résistant lui aussi, mort au pied du Vercors, mais c'est aussi mon beau-père Gérard Philippe, mais c'est aussi qui est mort, je le rappelle, à 36 ans, donc vraiment dans la fleur de l'âge, et ces illustres disparus, comme mes propres et si chers disparus, je les rassemble dans ces livres avec le sentiment que qu'ils se parlent entre eux, qu'ils correspondent, qu'ils n'ont et surtout avec ce sentiment que ni les uns ni les autres ne doivent tomber dans l'oubli, qui est peut-être le combat que j'ai toujours voulu mener dans mes livres et puis aussi un peu à la radio et dans les journaux.
Il y a une chose que vous dites et que vous écrivez, enfin qu'on lit aussi, c'est il faut que vous voyez les paysages pour écrire. Il faut que...
Ah oui, j'ai besoin de paysages. C'est pour ça que je n'écris mes livres qu'en Normandie. Devant des paysages qui sont peut-être le prolongement des pages que j'écris, quand je voyage, quand je suis dans cette Normandie, quand j'ai écrit sur Jean Prévost, j'ai eu besoin d'aller dans le Vercors où il s'était battu jusqu'à sa mort. Écrit évidemment sur Gérard Philippe, j'ai eu besoin de me rappeler les moments passés à Ramatuelle, à Cergy, ou rue de Tournon. Oui, j'ai besoin de ces lieux, j'ai besoin de ces paysages.
Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts.
Thank you.
Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre.
Tout là, c'est de la Madeleine, Jérôme Garcin.
Mais vous savez que Et nous, on a bercé nos enfants, Anne-Marie et moi, nos trois enfants, et maintenant nos petits-enfants avec le Petit Prince ou Pierre et le Loup, lu par leur grand-père.
Entendait ici.
Et donc, d'ailleurs, vous voyez, c'est très intéressant parce que ce sont des bons enregistrements. Vous savez que malheureusement, il n'y a aucune trace audiovisuelle des grandes pièces de théâtre qu'il a jouées, puisque Jean Villard ne voulait pas qu'on capte ni le Cid ni Hombourg. Et quand on écoute quelques extraits d'enregistrement, c'est très grésillant, avec la voix qu'on a appelée à l'époque nasillarde de Gérard Philippe, mais qui en fait est beaucoup due aux enregistrements. Et ceux-là qui sont bons montrent une voix beaucoup moins nasillarde, beaucoup plus claire, et mûr, si j'ose dire, mais c'était un merveilleux lecteur de contes, et je me rends compte que ça pour le coup ça a passé les générations, et peut-être que c'est ce qui va ajouter à la postérité de Gérard Philippe. Le théâtre, encore une fois, il n'existe plus pour le grand public, les cinémas, peu de films repassent. Mais tout d'un coup, cette voix du conteur du soir pour les enfants, elle demeure et elle persiste.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Écrire et dire, le masque et la plume, Jérôme Garcin avec Caroline Brouet, coédité par les éditions de l'Équateur et les éditions Radio France, France Culture. On va ouvrir ce qu'on appelle votre diaporama sonore sur France Musique. On va écouter quelques musiques et vous allez nous dire ce que c'est. Ce sera pas trop difficile. Est-ce qu'elle vous évoque? Première musique.
J'imagine ma vie d'après le masque et la plume, d'après cette vie un peu frénétique. Pour moi, c'est plutôt une promesse d'avenir qu'une page de nostalgie.
Je vais devoir apprendre la patience, l'indulgence, écrivez-vous dans l'avant-propos. Au bout de 4 mois, vous en êtes où?
j'ai pas encore appris, hein. Il faut que ça vienne. Je lis toujours autant, je vois autant de films qu'avant. Je vais plus dans les expositions, mais en revanche, c'est vrai que j'ai trouvé le temps d'écrire que je n'avais plus à la fin.
Deuxième musique.
C'est l'autre musique avec laquelle j'ai besoin de vivre et d'écrire. Vous aurez remarqué sans difficulté les parentés entre mes choix musicaux, et c'est vrai que c'est peut-être la musique d'accompagnement la plus douce, la plus profondément, mais je dis bien profondément mélancolique, dont j'ai besoin pour écrire.
Je me souviens, dans les années 90, vous avez fait quelques masques à la plume autour de la musique au festival d'Aix. Pourquoi je n'avais pas plus fait?
Bonne mémoire, mais tout simplement parce que, je vais vous dire la vérité, elle est très matérielle. J'adorais faire ces masques à la plume que je faisais sur la scène de l'archevêché à Aix-en-Provence, et qui étaient peut-être les plus animés que j'ai pu orchestrer. Et puis, il y a eu un... Ça a duré pendant des étés. J'allais directement d'Avignon à Aix-en-Provence. Et puis, il y a eu un partenariat qui était rompu entre notre maison, entre Radio France et le Festival d'Aix-en-Provence. Ils ont choisi...
Ça s'est refait depuis. Hein.
Oui, mais à l'époque, c'est la raison pour laquelle on m'a demandé d'arrêter, parce qu'ils avaient choisi une radio privée à la place de notre radio publique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Mais j'ai des souvenirs merveilleux, y compris si j'ai deux secondes, d'un Masque et la Plume très très violent contre un opéra que montait William Christie. Et puis tout d'un coup, William Christie est descendu pendant que mes critiques expliquaient que c'était un scandale. Et puis à mesure qu'il descendait silencieusement les marches de l'archevêché, j'ai vu mes critiques autour de moi sur la scène. Mais finalement, c'est pas si mal que ça, ce qu'on a vu, etc. Il est arrivé en bas des escaliers, il a regardé la tribune, et il est sorti côté jardin sans dire un mot. Et c'est peut-être un des plus beaux moments de l'image du spectacle du Masque et la Plume auquel j'ai pu assister.
On va se quitter avec ça.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale.
Quand j'étais malade, quand j'étais petit, quand j'étais au lit, ma mère me faisait écouter Barbara. Ça je l'ai jamais oublié, et Pierre Elloux lu par Gérard Philippe, et puis Le Tourbillon de la Vie. Et j'en ai retenu cette idée que ma mère avait été aussi à sa manière un tourbillon de la vie, dans le plus beau sens du terme.
Le tourbillon de sa vie, Jérôme Garcin, écrire et dire, avec Caroline Brouet, coédité aux Équateurs et France Culture. Merci d'être venu sur France Musique.
Merci Jean-Baptiste de votre accueil, c'était un très beau moment pour moi.
Il sort quand le prochain roman ?
Ça sera l'année prochaine maintenant.
À réécouter sur francemusique.fr.